Les entreprises face aux limites planétaires, bonjour, vous êtes sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Lecointe. Bonjour Sandrine.
Bonjour Cyrus, merci de me recevoir.
On va parler d'un secteur d'activité qui est assez inhabituel sur Plan B, où on a déjà parlé de plein de choses, l'énergie, l'eau, l'agronomie, etc. Même si depuis quelque temps, on parle de plus en plus de produits chimiques. On a récemment reçu Dorothée Moisan sur le plastique, puis Tania Pachef plus généralement sur les pollutions chimiques, notamment perturbateurs endocriniens. Avec toi, nous allons parler du secteur cosmétique. D'abord, en quoi ça consiste ce secteur? Qu'est-ce que ça recouvre? C'est quoi les impacts environnementaux sur le climat, sur la pollution, sur les sols, sur notre santé éventuellement? Et c'est quoi les solutions pour réduire tous ces impacts? Franchement, la cosmétique, c'était pas forcément un secteur auquel j'avais l'intention d'aller chercher des poux. Je me disais, bon, bah, c'est relativement vertueux, ça crée beaucoup d'emplois et les impacts environnementaux sont pas très importants. Alors, certes, pas très important, on parle pas du secteur, d'un secteur comme, je sais pas, l'acier ou quoi, mais quand même, comme tu vas nous l'expliquer, non, non, c'est loin d'être anodin. Je te présente brièvement, Sandrine, tu as eu une vie assez intéressante, mouvementée, une carrière assez riche. D'abord, tu es née, tu as grandi au Gabon et ta famille étant à Madagascar, ça t'a un peu fait faire des allers-retours. Tu as ensuite fait tes études en France dans le domaine de l'art. Tu es céramiste d'art de formation. En 2001, tu quittes la France pour aller au Congo. Alors d'abord pour raison, on va dire conjugale, sans rentrer dans les détails personnels. Et au Congo, tu as pu contribuer à la reconstruction du pays après-guerre. La guerre venait tout juste de se terminer. Tu as travaillé là-bas pour le consul général de France. En parallèle, tu as aussi créé des ateliers d'éveil artistique pour des enfants. Voilà. Tu es rentré en France quelques années plus tard, de fil en aiguille à nouveau. Bon, tu tombes enceinte et tu as fait une ostéoporose de grossesse. Alors, bébé allait très bien, ça va, mais toi, tu as eu une longue période de convalescence et c'est là que survient ta prise de conscience sur les sujets, notamment cosmétiques. On t'appliquait plein de produits sur la peau et ta peau pelait. Tu t'es dit, mais ça, c'est pas normal. D'où ça vient? C'est quoi les plantes? C'est quoi les ingrédients qu'il y a dedans? Comment on les transforme? Bref. Tu as mis le doigt dans l'engrenage et tu n'en es pas sorti depuis. Tu as fait toute la pharmacopée de l'océan Indien. Voilà. Tu t'es pris de passion pour ça. Et là, tu es entrepreneur depuis 11 ans dans l'industrie de la beauté et des cosmétiques. Tu es bon, donc, très actif depuis dans la transition écologique. Tu travailles sur la transformation des formules avec des ingrédients bah, les plus propres possibles. Tu es une entrepreneuse qui a monté une première marque. Il y a une dizaine d'années, Madagascar Cosmétique, avec un Care. Et évidemment, on aura compris le rapprochement avec Madagascar. Une marque que tu as développée pendant 4 ans et puis que tu as arrêtée car tu t'es rendu compte que voilà, il n'y avait pas de filière de recyclage de l'emballage plastique du produit, que ce n'était pas durable. Donc, voilà, c'était un petit peu la douche froide. Puis, tu as pensé à développer, bah, en fait, tu es dans un projet de R&D aussi, qui s'appelle OAN, un acronyme pour offrir un avenir à nos enfants. Qui dure depuis 3 ans, qui en a encore pour quelques années, pour développer des matériaux végétaux qui permettraient de supprimer le plastique à usage unique dans les salles de bain, dans les produits cosmétiques. En parallèle, tu es consultante et experte sur la transformation des entreprises et des marques de cosmétiques dans leur éco-conception et la réduction de leurs impacts environnementaux. Tu es aussi, bah, comme moi, prof, formatrice en école et en entreprise. Pour former les jeunes et moins jeunes sur la mise en place de solutions dans les secteurs comme la pétrochimie, la cosmétique, la parfumerie, le luxe. Enfin, bah écoute, félicitations aussi car tu as récemment sorti un livre, le guide de l'éco-conception en cosmétique. Hein. Et je dis félicitations parce que ça semble assez bien marcher. Le nombre d'exemplaires vendus est déjà assez important, environ 1 millier. C'est déjà beaucoup, un livre qui se vend à un
Bientôt,
millier d'exemplaires.
bientôt.
Bientôt 1 millier, bon. Déjà, c'est beaucoup dans l'absolu, et en plus, toi, tu es quand même dans une niche. Bravo, j'imagine que voilà, c'est à la fois des professionnels, des étudiants et puis de simples curieux qui s'en emparent. Bah, écoute, j'espère avoir fait un bon tour, mais Sandrine, bah, pour faire un peu de pédagogie, en fait, qu'est-ce que ça recouvre la cosmétique? Parce que moi, voilà, n'ayant pas une grosse culture du sujet, je ramène ça plutôt au maquillage, mais ça va bien plus large que ça et ça permettra de comprendre pourquoi aussi les impacts environnementaux sont importants, parce que ça recouvre en fait pas mal de sous-secteurs.
Bah déjà, tu m'épates, Cyrus. Merci pour la présentation, la bio, parce que je sais pas, ça fait quoi, 2 minutes? Bah c'est exactement ça. Donc, j'ai un parcours effectivement qui est un peu atypique. Mais du coup, je suis tombée dans un pot de crème donc, depuis 11 ans et j'aime bien nager dedans. J'en apprends tous les jours et c'est ça qui est riche. Mais alors, du coup, sur une définition, alors tu vois, j'ai carrément cherché la définition pour être sûre que je t'en donne une bonne. À la base, un cosmétique, donc ça vient du grec, Cosméo, donc ça veut dire je pars, j'orne. C'est une substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, donc la peau, les systèmes pileux et capillaires, les ongles, les lèvres, la poitrine, les dents aussi, et en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les protéger, de les parfumer, de maintenir en bon état, de modifier leur aspect ou bien d'en modifier l'odeur. Et donc dedans se trouve un univers qui est très vaste, parce qu'on utilise donc l'hygiène, donc un dentifrice, c'est un cosmétique, du maquillage, c'est un cosmétique, du skincare, donc pour les anti-âge, les soins, les anti-rides, etc., c'est un cosmétique, du vernis à ongles, c'est un cosmétique, les produits pour les animaux, donc c'est la niche un peu pet care, c'est du cosmétique. Quand on lave le poil du chien, etc., ça touche nos mains. Donc nous aussi, on est impacté aussi par ce qu'il y a dedans, donc la liste des ingrédients qui composent tout ça. J'ai oublié quoi, il y a plein de choses. Au niveau du cheval, par exemple, pour en parler vite fait, hein, sur du pet care, ça touche aussi tous les soins qui sont apportés à ces animaux-là, et souvent on oublie. Mais aussi, les animaux, c'est un gros marché cosméto. Le parfum, et aujourd'hui on a quelque chose qui se rapproche de plus en plus, c'est tout ce qui est hygiène maison. Je vais pas citer les marques, mais par exemple quand on va laver son linge dans le lavabo avec un produit dans un tube bleu par exemple, en plastique le tube, on met les mains dedans. Mais ça peut s'apparenter, alors c'est pas considéré comme la cosmétique, mais vu que c'est en contact avec notre épiderme, ça pourrait être façonné, formulé comme un produit cosmétique. Et donc de plus en plus de marques aujourd'hui arrivent sur ce créneau-là, parce que l'hygiène de la maison est fortement liée à l'hygiène aussi humaine et la santé humaine. Voilà.
Donc pour encore plus se rendre compte du marché dont on parle, donc déjà avec ce que tu as dit, ça fait quelques rayons au supermarché, tout un réseau de magasins, enfin rien que ce qu'on voit dans la rue, donc Marionneau, Sephora, ça, enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu des secteurs, enfin des grandes marques qu'on se figure aussi quelque part, toute cette économie qui tourne autour, qu'est-ce que ça recouvre?
Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête sur le, mais je sais que c'est un marché qui est énorme, qui est en constante évolution, qui connaît la crise un petit peu comme tout le monde actuellement, mais qui est en constante évolution. Moi, je retiens juste un chiffre, c'est celui des déchets qu'elle génère. Et ça, faut imaginer que, alors certes, on est une industrie déjà pétrochimique, ok, donc je reviens à la base, on est une industrie pétrochimique, on a 18% de la production mondiale d'hydrocarbures, c'est pas rien. Et elle est responsable aussi de 0,5 à 1,5% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, tu me posais avant la question, justement, pourquoi ? Ben, en fait, c'est l'utilisation dans la composition des produits, comment on formule, avec quoi on formule, etc. Les process de transformation d'une plante, tout ça, ça a un coût carbone. Donc, la fabrication des produits et surtout l'emballage. Souvent, c'est du plastique. Et voilà. Et à côté de ça, alors il y a une, je fais tout le temps je compare beaucoup avec l'industrie de l'aéronautique où là, effectivement, tout dépend ce qu'on met dedans, mais on est à 4-5% hein, pour l'aéronautique. Et tu vois, comparé à l'industrie de la cosmétique, on a 1,5. Quoi. Ouais. Ça, c'est pas à prendre à la légère et on est donc une industrie très émettrice de gaz à effet de serre et aussi très polluante avec tous les déchets qu'elle génère. Et dans ces 120 milliards de déchets qu'elle génère chaque année, il faut prendre en compte que seulement 9% des emballages plastiques de nos produits ont été recyclés. Et ça, Dominique Moisan, du coup, elle en parle dans son sujet plastique, hein, que c'est un problème.
Dorothée Moisan, mais tout à fait. Non, sur la réutilisation, réemploi, recyclage du plastique, bref, l'économie circulaire du plastique, c'est un peu la douche froide hein, de ce qu'on disait. Et ton chiffre de 9%, on l'avait cité. Oui, pour précision, pour l'aéronautique, tu as raison. Hein, c'est 4-5% de l'impact climatique de l'homme est lié à l'aéronautique, juste les avions, hein, sans compter tout le secteur touristique autour de l'aéronautique, juste le fait de faire voler des avions, c'est 2,5% du CO2, mais si on élargit aux traînées de condensation, qui exercent aussi un effet de serre sans être des gaz à effet de serre, si on élargit aux traînées de condensation, on passe de 2,5% à 4 ou 5%, c'est juste pour les auditeurs qui aiment les précisions, mais globalement. Est-ce que justement, tu parlais de l'industrie, mais est-ce que tu les sens plutôt volontaires, réceptifs? Bon, alors, à l'époque où je travaillais en RSE chez Ernst & Young, j'avais l'impression de voir, sans citer de marque, mais il ne s'agissait pas de. Je ne sais pas si c'était L'Oréal ou pas. Ben voilà, je ne sais même pas si c'était L'Oréal, mais en tout cas, mon expérience m'a fait me dire, tiens, les L'Oréal et compagnie, ils commencent à cartographier leurs produits, à faire des analyses de cycle de vie de manière assez détaillée, à identifier quels sont les leviers pour améliorer des fiches environnementales de tous leurs produits de manière assez volontaire. Et ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, je sais pas, depuis, je ne me suis pas réintéressé au sujet, mais j'en ai gardé une image d'industrie relativement, enfin, qui a envie d'avancer. Mais qu'est-ce que toi, tu perçois là-dessus?
Alors oui, elle avance. En fait, l'industrie de la cosmétique, c'est ça qui est bien, c'est qu'on innove tous les jours. Et puis, elle bouge énormément. Déjà, en termes de réglementaire, alors c'est une tannée. Hein. Quand on met le doigt dedans, c'est une tannée parce qu'il faut vraiment suivre. Tous les mois, il y a un truc qui se passe. Quand tu es une marque qui se développe, il faut vraiment être aux premières loges pour être au fait un petit peu de tout ça, parce que y a beaucoup de choses qui évoluent, beaucoup de choses qui changent. Ils disent noir un jour, l'année d'après c'est blanc, donc il faut être vachement agile en fait quand tu es une marque, justement de pouvoir se dire ok, là on doit faire ci, ah ben non, là on a un ingrédient qui est classé, par exemple, qui est listé perturbateur endocrinien, si on doit partir sur ce sujet-là. Mais du coup, Tania en a parlé longuement, donc je ne vais pas refaire une passe. Puis elle est vraiment top, ce que vous avez fait tous les deux. Enfin, le témoignage était assez véridique et nous concerne aussi. Mais du coup, voilà, il y a quand même des listes d'ingrédients qui sont non grata, on va dire ça comme ça, pour plusieurs raisons. Un ingrédient naturel, ce n'est pas parce qu'il est naturel qu'il est bon. Hein, y en a beaucoup qui l'oublient. Et donc faire des produits que naturels, c'est bien à un moment donné, sauf qu'il faut avoir conscience que aussi des ingrédients naturels l'un avec l'autre peuvent être toxiques par la suite. Donc ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. L'industrie, elle se transforme énormément, donc je parlais des réglementations, mais il y a aussi tout ce qui est les avancées en termes de recherche d'un point de vue santé humaine et santé environnementale. Où là aussi, c'est en train de bouger. Donc, on sait plus ou moins, si tu veux, que... je te prends l'exemple du plastique, par exemple. On sait que c'est un matériau qui est vivant et qui va relarguer. Il relargue des niasses, il relargue des choses. Il y a des microparticules, etc. Et vu qu'on est une industrie chimique, du coup, on a des choses qui sont chimiques et qui sont conditionnées dans un... J'essaie de vulgariser au maximum, hein. mais du coup, qui sont chimiques et qui sont conditionnés dans du plastique. Pour prendre cet exemple-là, et ben, des fois, on se rend pas compte, mais ce plastique, il est soumis à des variations de température. Donc, un coup, il fait 40 degrés dans la salle de bain, un coup, il fait plus froid, un coup, voilà. Donc, il est soumis à tout ça, dans son transport aussi, hein, il peut être soumis à pas mal de choses, et donc, il va relarguer. Et ça, tout ça, mine de rien, ça peut nous impacter. Donc, il y a des études qui commencent à être, qui commencent à sortir au niveau aussi du plastique qui est recyclé. Ça aussi, peut-être que le plastique recyclé relarguerait plus qu'un plastique normal. Et ça, c'est un petit peu plus grave, parce que du coup, on attend d'avoir ces résultats-là, mais il faut l'avoir en tête, et beaucoup de gens ne l'ont pas du tout en tête. Ils se disent, ah bah tiens, on va peut-être prioriser un pack en plastique recyclé parce qu'il y a moins de plastique, parce que c'est vertueux, etc. Alors que, bah attention, parce que d'un point de vue santé, il y a des nouvelles études qui pourraient nous montrer que finalement, ce plastique-là n'est pas forcément la meilleure solution. Donc voilà, il y a toutes ces études-là, tout plein de choses en fait qui gravitent autour de nous. Et qui font qu'aujourd'hui, on est sans cesse obligé d'innover et de trouver des alternatives, hein, qu'elles soient beaucoup plus saines, aussi bien pour nous, pour l'homme et pour l'environnement. Voilà.
Et, on va y revenir sur, ouais, effectivement, comment on peut transformer les produits. Tu parles pas mal d'emballage et de plastique, j'imagine qu'il y en a d'autres aussi, des enjeux, mais... à chaque fois, il faut se poser la question de la sobriété, et j'avoue que je ne me la suis jamais posée pour un secteur comme la cosmétique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la sobriété, pour, voilà, c'est moins se maquiller, c'est moins, enfin voilà, pardon pour des remarques un peu
Alors, la sobriété, en la matière. La sobriété, c'est un très gros sujet qu'on a, nous, hein, et qu'on traite, je crois que tout le monde le traite déjà depuis quelques années. Il y a la sobriété déjà au niveau des ingrédients. Dans un produit cosmétique classique, quand tu retournes ton produit, ok, tu as le facing, tu retournes, tu as la liste Inkey. La liste Inkey, c'est toute la liste des ingrédients. Dans cette liste des ingrédients, souvent, elle est écrite en tout petit. Elle est souvent bien cachée, tu l'as au fond d'un pot, dans un pack, comme ça tu jettes le pack et comme ça tu ne vois plus et tu ne gardes que le pot et là, il n'y a plus de liste Inkey. Voilà. Donc les gens, il y a quelques années, évitaient de l'annoncer et de le mettre un petit peu en gros pour que ce soit bien compréhensible du consommateur. Et souvent, elle était constituée entre 20 en moyenne, hein, vingtaine d'ingrédients à l'intérieur. Mais déjà, ce qui est bien, c'est que la réglementation européenne, parce que nous, on est soumis à une réglementation qui est européenne.
REACH ou c'est ça?
Non, REACH, c'est autre chose.
Nous, on a,
oui, enfin, ça fait partie de tout ça. Attends, tu m'as perdu mon fil. Cette liste des ingrédients, elle a été pendant très longues années traitée de façon cachée de la part des marques parce qu'on ne voulait pas que les consommateurs comprennent ce qu'il y avait dedans. Et donc, on l'écrivait en tout petit, en caractère minuscule. Limite, il fallait prendre une loupe et déjà, c'est en latin. Latin ou anglais, ok ? Donc déjà, tout le monde n'a pas fait latin. C'est compliqué d'avoir le nom d'une plante, si t'as pas fait latin. Puis des noms, tu vois, phénoxyéthanol, méthylxo, machin. C'est très compliqué à comprendre. Mais tout ça, c'est fait exprès. Et depuis quelques années, là maintenant, depuis moins de 10 ans, ça commence à se libérer, ça commence à être un peu plus transparent. Et donc, dans le terme sobriété, parce que je reviens à ça, nous, on réduit les ingrédients. Et donc, c'est top, parce que tu te dis, enfin, d'un point de vue consommateur, tu te dis, c'est bien, s'ils réduisent, ça veut dire qu'il y a plein d'ingrédients qu'on n'a pas besoin. Tu vois, 15 conservateurs dans un produit d'une crème, ou bien des colorants dans un shampoing, ou bien, enfin, tu vois, tout ça, il y a des choses qui n'ont aucun sens. Donc, tu peux les supprimer. Donc, la sobriété dans une formulation cosmétique, elle est là. Après, tu as aussi la sobriété dans ton usage de citoyen. Tu veux garder une hygiène, etc. Mais la sobriété aujourd'hui va nous obliger, si tu veux, quelque part, à réduire. Tu n'as pas besoin d'avoir un produit, je ne sais pas, matin, midi et soir. Tu n'as pas besoin... Moi, je suis un petit peu zéro déchet et tu vois, j'ai des basiques. Moi, j'ai deux produits et puis c'est tout. Il y a des modes, tu vois, par exemple, au Japon, il y a cette mode où les Japonaises ou même des Coréennes, enfin, il y a beaucoup de femmes asiatiques qui vont utiliser ce qu'on appelle du layering. Le layering, c'est des rituels matin et soir où tu te mets un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq produits sur la peau. Et ça peut aller comme ça jusqu'à une dizaine de produits. Mais déjà, de base, il faut savoir qu'une Parisienne, elle utilise, en moyenne, hein, alors en moyenne, je ne vais pas dire de bêtises, on est à plus entre 10 et 15 produits par jour. C'est beaucoup. Et encore, on est très loin. Nous, en France, on n'a pas cette consommation type layering comme en Asie. Mais en Asie, c'est des rituels de beauté où ta crème, avant d'appliquer ta crème, tu dois nettoyer ton visage. Ensuite, tu dois hydrater avec une crème hydratante. Ensuite, tu dois mettre un sérum pour je sais pas quoi. Ensuite, tu dois mettre un truc pour tes cernes. Ensuite, tu dois mettre un truc pour machin. Bref, tu imagines le cocktail d'ingrédients que tu te mets sur ta peau, quoi.
Et les hommes, on sait, parce que, enfin, c'est pour faire le delta aussi, dans les 10-15, j'imagine qu'il y a quand même le dentifrice, le savon, le détergent pour le linge. Enfin, ça, c'est commun aux hommes et aux femmes, non?
Oui, mais après, tu as la crème pour les mains qu'une femme va se mettre beaucoup plus souvent. Tu as un rouge à lèvres. Tu peux mettre une base, un baume. Après, tu peux mettre un rouge à lèvres. Tu peux mettre... d'abord, nettoyer ton visage. Donc, c'est un produit. Tu ne nettoies pas que à l'eau. Ensuite, tu vas mettre ta crème hydratante. Après, tu vas mettre un contour des yeux. Après, tu vas te maquiller. Donc, un kohl, un mascara, un fond de teint, un fard à paupières. Enfin, tu vois, et tout ça fait que, voilà, tu veux te laver les cheveux, ok, tu vas mettre un shampoing, puis après, tu as un démêlant, et puis, etc., etc., quoi. Donc, okay. Au final, en moyenne...
Je suis surpris que ce ne soit que 10-15 avec ce que tu viens de dire, mais alors, peut-être qu'il y en a qui ne se lavent pas du tout, j'en sais rien. Non, mais je blague, mais effectivement, c'est beaucoup.
Ouais. Bah, ça peut vite monter, et donc, tu vois, la sobriété, elle est là aussi, de se dire, est-ce que j'ai besoin de tout ça, quoi ? Est-ce que l'industrie ne nous a pas contraints à imaginer, nous créer du besoin, alors qu'on n'a clairement pas l'utilité, quoi ?
Alors... C'est intéressant qu'on en parle, on improvise un petit peu en vrai dans cette conversation, ouais. Je découvre et il me vient des nouvelles questions, celle de la sobriété, on ne l'avait même pas préparée, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de, parce que tu le soulèves un peu en filigrane, de publicité, de culture consumériste qu'on inculque en quelque sorte, et ça, autant je peux imaginer que simplifier les formules, remplacer le plastique par d'autres matériaux, etc., que les marques soient relativement prêtes à l'entendre, autant remettre en cause quand même le fond culturel de tout ça et les pratiques publicitaires derrière ça, c'est quand même ce serait une transformation d'un tout autre acabit.
Bah, c'est du marketing, hein. C'est du marketing. Hein. Tout ce que tu vois sur les affiches, etc., je parle de créer le besoin, c'est clairement ça, hein. Si on va te faire croire que tu as besoin d'un parfum qui sent je sais pas quoi, alors que tu n'as pas besoin de parfum qui sent je sais pas quoi.
Et concrètement, je sais pas pourquoi, je pense à L'Oréal, parce que c'est quand même la plus grosse boîte, une des plus grosses au monde, mais aller leur dire, enfin, est-ce qu'en tant que consultante, tu peux aller sérieusement leur dire, oui, mais écoutez, il faut arrêter de faire trop de marketing, il faut, je caricature un petit peu, il faut arrêter de pousser auprès des gens des produits dont ils n'ont pas réellement besoin. Enfin, c'est pas un problème qui se pose que pour la cosmétique, c'est... tous les biens de grande consommation en général, mais ça, je vois parfois des mine de rien, Decathlon, qui est une boîte relativement décroissante. Enfin, si la décroissance devait s'apparenter à une pratique d'entreprise, ce serait ça. Je dis pas qu'ils ont un plan pour réduire leur chiffre d'affaires et leur profit, etc. Mais voilà, ils réduisent le nombre d'articles, ils commencent à réduire un peu les aspects le matraquage publicitaire, etc., c'est plus axé sur des besoins maintenant et plutôt que sur des envies, on va dire, des choses comme ça. Mais voilà, dans le domaine de la cosmétique, je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler à l'avenir, c'est un secteur cosmétique qui cesserait en fait de générer des besoins un peu pas essentiels, quoi.
Mais tu mets le doigt sur effectivement un sujet qui est au cœur de tous dans notre industrie. C'est comment tu t'adresses aux consommateurs. Et maintenant, on est dans cette transformation RSE où tu dois inculquer un petit peu les éco-gestes à ton client. Et c'est ce qu'il attend. Donc nous, on va plutôt répondre au consommateur en lui disant, tu vois, de travailler son geste de tri. Ok, t'as un produit, très bien. On a travaillé sur sa fin de vie. Donc à toi, consommateur, de l'emmener là où tu dois être moins impactant quelque part. Donc après voilà, c'est aux marques justement d'avoir ce discours-là. Et ça, elle est en train de le faire. Alors après, vu qu'il n'y a pas encore de loi qui encadre, c'est toujours long à mettre en place. Mais les lois incitent en tout cas à aller dans ce sens-là, notamment justement la loi anti-greenwashing. Mais tu vois, des marques qui vont prôner, par exemple, « nous, on est neutre en carbone », faut arrêter, quoi. Tu le sais que c'est possible.
Entreprise ne peut pas être neutre en carbone.
Non, mais voilà.
Parce qu'elle se détache du système économique mondial totalement. Voilà.
Oui, mais nous, on a conscience de ça, Cyrus. Mais il y en a d'autres qui n'ont absolument pas conscience de ça. Et elles ne savent même pas ce que c'est que... Enfin, tu prends un consommateur lambda qui entend parler de carbone, mais qui ne sait même pas ce que c'est qu'un bilan carbone. Enfin, tu vois. Et quand tu t'adresses à ces gens-là... elles vont se dire, ok, elles vont aller dedans, mais la société, elle a dit que c'était neutre en carbone. Et moi, on doit me dire, mais sans savoir ce que c'est, que je dois, donc je vais consommer ça. Donc, voilà, donc quelque part, moi, je suis pour ces lois-là, qu'elles tapent dessus aussi en disant, ok, on met des lois, mais maintenant, il faut les respecter. Et puis derrière, c'est un petit peu attaquer des marques qui font n'importe quoi et qui tu vois, qui vont propager un petit peu ce greenwashing ambiant, quoi. Mais alors, pour en revenir un petit peu à la sobriété, parce ouais. que du coup, il y avait encore ce dernier point que je voulais aborder, c'est et toujours lié à l'entreprise elle-même, c'est combien de produits tu mets sur le marché. En tant qu'entreprise, aujourd'hui, tu en mets, mais une... Allez, par an, je ne sais pas, une marque, elle peut en mettre jusqu'à une gamme entière, je ne sais pas, peut-être 60 produits. Bon, c'est peut-être beaucoup, mais...
la fast fashion, mais appliquée à la cosmétique, quoi, en fait.
C'est la fast
collection beauty. Qui se renouvelle. Ouais.
C'est la fast beauty, c'est exactement pareil que la fashion. On a le même truc, il y a la slow fashion, on a la slow beauty, on a la slow cosmétique. On a la fast beauty, ils ont la fast fashion. Donc, c'est exactement la même consommation de produits. Mais du coup, c'est en tant qu'industriel, que professionnel, que marque, justement, de se dire, OK, moi, je vais dans une production qui est raisonnée, je vais essayer de mettre sur le marché des gammes qui sont basiques, des gammes qui sont, tu vois, où tu peux, ton best-seller, tu vas le garder, tu vas essayer de limiter tous les autres produits qui sont annexes et qui peut-être ne marchent moins bien, les retirer du marché, je ne sais pas, il y a une gymnastique à faire, mais du coup, c'est d'éviter en tout cas de continuer à produire 60 produits par an, par exemple, quoi.
Parce que ce qui me perturbe vu de l'extérieur, j'imagine les patrons, les managers de ces boîtes savent ce qu'ils font. Ils ont fait leurs calculs et ils se disent ouais. probablement que multiplier le nombre de produits, au final, ça mène à de meilleures performances financières. Mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de me dire que sans cesse renouveler les produits, sans cesse en créer de nouveaux, sans cesse faire des pubs de nouveaux produits et faire tourner tout ça, ça a un coût aussi quand même, à titre purement économique. Je ne parle même pas en termes environnementaux. C'est que ça a un coût, alors que effectivement, si on, comment dire, on sensibilisait le consommateur à finalement utiliser une gamme plus restreinte de produits, l'entreprise elle-même, elle pourrait ne vendre que quelques produits et éviter les coûts liés au fait de sans cesse renouveler, quoi. Mais j'imagine que c'est un jeu de tango entre ce qu'on propose au consommateur et ensuite le consommateur veut sans cesse du nouveau, et donc tout le monde fait un peu cette course-poursuite à toujours du nouveau, alors que si tout le monde jouait le jeu de sensibiliser le consommateur à écouter, on va pas faire un nouveau truc toutes les semaines. Le même truc vaut pour la fast fashion. Et au final, on va vous mettre un produit, on va vous y habituer pendant des années et ce sera très bien. Vous sentirez bon et vous serez beau ou belle. Tout le monde aurait tendance à y gagner. Mais je spécule.
Non, mais c'est ça. La sobriété, du coup, elle est à tous les étages. Donc, tu vois, le consommateur, d'en utiliser moins. Tu vois, moi, je suis effarée. Des fois, je vais dans des... Alors, je suis maman d'un petit garçon de 10 ans. Et des fois, on va chez les parents. Les enfants sont invités chez les copains, quoi. Et de temps à autre, j'atterris dans une salle de bain de parents. et des fois, je découvre leur salle de bain. Alors, je dis rien, mais à l'intérieur, je bondis parce que je me dis, mais comment c'est possible qu'une famille de 3, papa, maman, un enfant, il y a autant de gel douche. Et là, je questionne une maman ou un papa, etc. Et on me dit, oui, mais parce qu'il avait envie de changer. Un coup, c'est pomme, un coup, c'est parfum poire, un coup, c'est parfum vanille, un coup, c'est machin. Et tu te dis, on est loin. Des fois, je me désespère toute seule parce que je me dis, mais oh là là, c'est difficile de toucher tout le monde, c'est difficile de porter haut et fort un petit peu nos valeurs et ce qu'on voit comme dérive. De se dire, mais il faut que ce soit les gros qui affichent, mais avec des grands encarts sobriété, que nouveaux produits et achetez-le Black Friday, etc. Tu vois,
il y a des savonnettes aussi, donc c'est encore un autre plutôt que 7 pots de gel douche. Bon, merci Sandrine. Enfin, ça va être cool de faire ce détour par des questions de sobriété et finalement une question socioculturelle, comportementale. Enfin, je pense que ça fait aussi partie de la solution. Si on a fait le tour là-dessus et que ça va, peut-être passer justement aux questions plus d'éco-conception. Enfin, le produit lui-même, imaginons que dans un monde idéal, on soit sobre sur l'utilisation de ces produits. Et nous, on n'est pas en train de taper sur cette industrie en particulier. Ce qu'on est en train de dire s'applique à l'industrie des articles de sport, des jouets, de l'agroalimentaire. Enfin, ça s'applique partout, ce qu'on est en train de dire. L'idée, du moins. Maintenant, oui, sur le produit lui-même, d'ailleurs, peut-être l'occasion que tu nous parles plus en détail de ton travail. Et finalement, c'est quoi les pistes pour réduire que ce soit l'empreinte du plastique ou d'autres... ingrédients ou matériaux présents dans les produits, comment s'y prendre?
Bah, en fait, les solutions pour vraiment transformer notre industrie, et enfin, comme tu dis, hein, ce n'est pas que notre industrie, mais en tout cas, c'est des pistes pour changer en faveur de l'environnement et notre santé, hein, tant qu'à faire, on ne va pas s'oublier. Hein. Donc, ça peut être, donc c'est de l'éco-socio-conception, là, pour le coup, si on nous intègre dans l'éco-conception, on intègre l'humain, du coup, c'est de l'éco-socio-conception. Bah du coup, il y a plein de solutions. Et c'est ça le truc, c'est que les gens, ils entendent ce terme qui est peut-être très tendance et du coup, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Tu vois, c'est un peu comme un mot valise, là. On va mettre un mot fourre-tout, on met tout plein de trucs dedans. Mais on ne sait pas trop comment, au final, comment on met en œuvre ce truc-là dans notre entreprise ou comment on met en œuvre dans nos vies. Parce que ça aussi, c'est, on peut l'appliquer aussi à soi. Il y en a plein des solutions et le pire, c'est qu'on les a tous, quoi. On a tous ces solutions en soi. La première, c'est du bon sens, de se dire « j'en ai pas besoin, donc je vais pas le faire, je vais pas aller dedans ». Après, il y a ce côté de connaissance, d'apprendre et de se poser la question, en fait, à chaque choix que tu fais, de se poser simplement la question « ça vient d'où ? C'est fabriqué comment ? Ça se finit comment ? Enfin, c'est quoi sa fin de vie ?» Voilà, et de dire, ok, c'est quoi le matériau ? Tu vois, tout à l'heure, on parlait de maquillage, je te dis, là, ça brille, etc., tu vois, dans un fard, un rouge à lèvres, ou bien un blush, etc. Pourquoi ça brille ? Ça brille pas, ça brille pas comme ça par magie, quoi. Il y a du mica dedans. Le mica, c'est une pierre, c'est un minerai, qui alors, je crois que la production, est, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais en gros, on en trouve beaucoup en Asie. En Inde, et du coup, c'est souvent extrait de façon manuelle, et c'est souvent des petits gabarits qui passent dans les petits trous. Donc, c'est des enfants qui sont envoyés sous terre. Je fais le tableau bien noir, mais c'est clairement comme ça, pour récupérer ces petits morceaux de mica. Et d'ailleurs, le mica, tu en trouves aussi dans ton téléphone, tu vois, tu en trouves partout, quoi. Dans les ordinateurs, c'est des composants de plein de matériaux électroniques. Et pourtant, derrière, c'est une catastrophe, parce que d'un point de vue éthique, c'est pas possible, quoi. Et donc ça, aujourd'hui, quand tu consommes un cosmétique qui brille, tu te dis, ok, eh ben, je vais retourner le pack, regarder la liste des ingrédients, et si je vois mica, quel est mon réflexe ? C'est de se dire, est-ce que je supporte cette industrie-là, tout ça, parce que je veux que ça brille sur ma joue ?
Après, on ne peut pas demander au consommateur ou à la consommatrice d'être à ce point au courant de tout. Bon, il faut regarder les ingrédients, un par un, aller regarder c'est quoi les problèmes environnementaux, droits de l'homme que ça peut poser. Enfin, alors, tout à l'heure, on parlait de légiférer, mais qui est une autre piste. Mais que peut-on demander, voilà, est-ce qu'on peut demander ça raisonnablement aux consommateurs, consommatrices, à ce point, avoir l'esprit quand même assez sacrément aiguisé ?
Mais... Je ne demande pas d'avoir les réponses, mais au moins de se poser des questions, en fait. Et c'est un peu du bon sens de se dire, quand j'achète un gel douche, je vais racheter un plastique. Je consomme le produit. Je vais jeter le plastique. Je vais racheter le même plastique. Je vais consommer l'intérieur. Je vais jeter le plastique. Enfin, d'avoir ce geste répétitif pendant X années, et ben, à un moment donné, il faut faire stop et se dire, il y a quoi comme alternative à cette gestuelle qui n'a aucun sens ?
Ouais. D'ailleurs, quelle est la réponse à ça ? Comment on pourrait réutiliser les... Ben, j'ai l'impression que tu es en train de parler de réutilisation de l'emballage, non ?
C'est exactement ce vers quoi je veux aller. Hein. C'est de montrer que dans l'éco-conception, du coup, il y a d'autres alternatives. Et donc, l'alternative à cette façon, cette société de consommation, ben, du coup, c'est d'aller vers de la consigne ou bien du réemploi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de marques, qu'elles soient des gros groupes ou des petites marques, qui vont sur la consigne. Donc, en gros, tu vas consommer, je ne sais pas, un déodorant. Je vais citer la marque Andro, que j'aime beaucoup, qui est conditionnée dans du verre. Une fois que tu as utilisé ta petite crème de déodorant, donc ce n'est pas un spray, hein, on parle de crème déodorant, tu as une petite spatule en bois, tu prends la petite dose, tu l'appliques, tu masses, etc. sur les selles. Une fois que ton pack est vide, tu renvoies à Andro ton pack vide. Lui va le laver, il va t'en envoyer un plein, etc. Donc, et tu vois, en skincare, tu as une marque aussi que j'aime beaucoup. Alors, c'est bien, je fais du placement de marque là. Mais parce que du
N'oublie
coup,
pas,
c'est.
c'est bien de féliciter et valoriser
Mais
les
oui.
entreprises qui font des choses bien, il n'y a pas de problème.
Ben c'est ça. Et puis en plus, c'est des marques que moi, enfin, je suis consommatrice de ces marques-là. Parce que j'aime les valeurs. Je vois comment elles fonctionnent derrière. Je sais que c'est du circuit court, que c'est du local. Je sais que derrière, tu vois, il y a une ACV qui est pensée, en tout cas, qui est pensée pour limiter l'impact. Et en carbone et en eau, l'impact eau, vu que c'est des produits qui ne consomment pas beaucoup d'eau. La marque les cosmétiques frais, tu vois, c'est un petit peu comme ce système de jus pressé à froid. Et ben là, elle va récupérer de ses producteurs les légumes, les fruits et légumes en fait là de leur production. Et par saison, elle va produire des cosmétiques qui sont frais. Alors par contre, la date de péremption est courte, mais c'est pas grave. Je vais utiliser que ça comme produit, donc ça va vite partir. Si je multiplie, tu vois, des produits en disant bah tiens aujourd'hui je vais faire ça, et puis demain j'en mets un autre, et puis après-demain j'en mets un autre. Le soin, le bénéfique du produit en lui-même, tu l'as pas. Tu l'as pas. Donc du coup, tu vois, cette marque-là va proposer à ses clientes d'avoir des produits qui sont frais, vraiment frais, fabriqués localement. Donc là, il n'y a pas de transport qui prend de l'avion, etc. Tout est local. Elle fait vraiment ce travail justement d'impact carbone. Tout est à proximité, en tout cas, du lieu de fabrication, de conditionnement, etc. Et au final, les bénéfices, ils sont extraordinaires. Tu vois, le fait de formuler aussi un produit qui est à chaud ou à froid, par exemple, tu vois, le côté solide, tu vois, tu veux limiter, donc arrêter de prendre du gel douche. Te dire, OK, là, c'est ce système de je prends, je consomme et je jette, du coup, c'est du plastique qui n'est pas forcément pris en charge. La marque, elle dit, oui, le plastique est pris en charge dans les filières de recyclage, mais si le client, enfin, si le consommateur fait mal son geste de tri, le plastique peut se retrouver dans la nature, etc. Bon, je ne fais pas un dessin, tu vois la suite. Derrière, il y a des solutions. Et donc, cette solution, c'est de trouver des savons, donc soit solides, donc du coup, qui dit solide, il n'y a plus d'eau, donc c'est anhydre, ou alors des shampoings ou des savons qui sont en poudre. Et ça aussi, c'est. Alors, il n'y a rien vraiment d'innovant parce que la poudre, ça existe depuis, je sais pas, ça date très longtemps, même avant les Égyptiens, je crois, dans l'Égypte antique, je crois que c'était les Sumériens qui ont fait les premiers savons solides. Parce que je donne des cours d'histoire de cosméto aussi.
Ben oui, on aurait pu démarrer par ça d'ailleurs. Quelles sont les origines de la cosmétique avant même de parler ce que ça recouvre? Mais bon, petite parenthèse historique
Bon.
qui est intéressante que j'ignorais.
Mais du coup, voilà, donc du coup, la cosmétique solide, la cosmétique en poudre, enfin, tu vois, Marie-Antoinette, quand elle utilisait ses produits en maquillage, etc., c'était de la poudre. Le roi Louis XIV, etc., quand ils utilisaient, c'était des cosmétiques en poudre, des parfums aussi, poudre, etc. Donc, il n'y a rien vraiment d'innovant aujourd'hui en termes de galénique. Mais en tout cas, c'est faire le choix de se dire qu'aujourd'hui, OK, je veux supprimer une cosmétique qui est impactante sur l'environnement. Donc, du coup, je vais abandonner mon gel douche plastique et je vais passer au solide. Et le solide, alors là aussi, c'est encore plus compliqué parce que comment tu vas dire à un consommateur lambda, alors il y a deux solides. Il y a les solides qui sont formulés à froid et les solides qui sont conditionnés autrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, moi, naturellement, étant dans l'industrie, je travaille beaucoup avec des usines et des formulateurs, ben on privilégie une formulation à froid. À froid, ça veut dire que tu vas essayer de récupérer en tout cas tous les bienfaits d'une plante et sans la chauffer jusqu'à je ne sais pas combien de degrés. Et comme ça, tu récupères tous les bienfaits. Que si tu chauffes un produit à fond, à fond, à fond, ben du coup, tu vas avoir très peu de bénéfices au final sur ta peau. Et donc, du coup, voilà, donc c'est déjà de se dire, OK, je veux un produit solide. Je fais un effort, j'ai l'eau, je l'ai chez moi, donc je peux très bien prendre du savon et voilà. Donc c'est une nouvelle gestuelle, on n'aime pas, mais en tout cas on peut s'adapter, on peut essayer. Il existe beaucoup, beaucoup de produits solides, hein, donc tu as ton shampoing solide, tu peux avoir un démaquillant solide pour les filles. C'est pas ta cible, Cyrus, mais peut-être ton épouse, tes amis, etc.
Mais tout à fait, non, non, mais on a marre de parler que à des geeks de l'énergie, bon, bref, non, non, mais on veut ouvrir tout à fait l'audience.
Récemment, tu vois, tu as plein de produits qui arrivent sur le marché parce que, en termes d'innovation, du coup, on arrive à faire justement des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le marché. Par exemple, du dissolvant qu'on connaît liquide pour les ongles, du dissolvant solide. Et ça, pour les curieux, c'est la marque Délienne qui est un projet d'école et qui a fini en société juste après, quoi. Un projet d'études et les filles, elles ont monté leur boîte. Mais tu
Et
vois.
comment on l'utilise, le produit qui est solide, enfin, qui marche?
T'es sûr que tu veux la démo là?
Bah forcément, mais je me dis juste comment est-ce qu'un solide pourrait être un dissolvant pour le maquillage, quoi, mais...
Bah, tu l'utilises avec un petit peu d'eau, etc. Tu frottes avec une petite brosse et une éponge, et puis voilà,
Ah,
ça va.
ok, c'est simple. Ok,
Mais
d'accord.
ouais, non, enfin, c'est très simple.
Magouverne.
C'est comme un démaquillant, tu vas prendre ton pain, tu mets un petit peu d'eau, ça dépose une crème, tu frottes, et puis voilà, ça s'en va. Mais tu vois, il y a aujourd'hui les alternatives, aujourd'hui en cosmétique, il y en a plein. Faut juste tester, avoir la curiosité de se dire, et si je changeais ma gestuelle? De se dire que voilà, en dentifrice, tu vois, c'est pareil, le tube de dentifrice, pendant très longtemps, le tube classique, tu sais, plastique, souple, etc., il n'est pas pris en charge dans les filières de recyclage parce que c'est un multimatériau. Alors peut-être que Dominique en a parlé, je ne me souviens plus. Tous ces packagings qui sont avec des couches et des couches de colle, de plastique, colle, plastique, etc., qui font barrière à plein de trucs. Du coup, c'est pas pris en charge dans les filières de recyclage. Donc aujourd'hui, un tube de dentifrice plastique n'est pas recyclable. Donc c'est en train de changer, donc heureusement. Mais pendant de très longues années, imagine le nombre de dentifrices qui n'ont pas été pris en charge, quoi. Et donc ça finit en incinération, en
Et
enfouissement,
alors,
voilà.
quelle est la solution pour que ça puisse être pris en charge, voire pour se passer de
De faire
plastique
du monomatériau.
éventuellement?
Du
Comment?
monomatériau. Donc, soit tu le fais
Ouais.
en 100% PET, et là, il y a les filières, et donc là, tant mieux. Soit tu le fais en aluminium. À l'époque, le dentifrice, tous ces tubes-là étaient conditionnés dans de l'aluminium. L'aluminium, il n'y a aucun problème. Bon, certes, il coûte cher à produire, mais bon, après, derrière, bon, après, il faut faire des choix. Donc, voilà. Tout n'est pas parfait, et c'est, voilà, c'est toute une histoire de compromis. Mais. Pour en revenir au dentifrice, du coup, tu as des solutions qui sont très bien aussi. C'est je sais pas si tu as testé, des petites capsules de dentifrice, des petits bonbons, comme une petite, comment dire, un petit solide, quoi. Imagine un petit Doliprane que tu croques sous la dent et tu viens passer ta brosse à dents par-dessus, ça mousse et ça te fait comme une pâte de dentifrice. Mais du
Ouais.
coup, tu n'as pas d'emballage. Enfin, tu as un emballage, mais tu vois, regarde la marque Paos. PAOS, elle vient, tu rachètes que des recharges. Tu as son petit pot en verre avec un petit capot en aluminium. Les petits solides dentifrices sont comme des petits bonbons à l'intérieur. Tu les croques, une pastille, un usage, tu brosses, etc. Ça fait le boulot et c'est très bien. Et c'est très bien. Et tu as le
Alors.
dentifrice en poudre aussi.
Il me vient une question que, enfin, je pense qu'on ne peut pas faire 1 heure de discussion sans la poser. Quid du bicarbonate de soude? Ça a l'air de servir à plein de choses. Est-ce que, voilà, si tout le monde s'y mettait, bon, en même temps, l'industrie, des pans entiers de l'industrie de la cosmétique vont peut-être faillir si on s'y mettait tous, je sais pas. Non, non, mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses, en fait, bicarbonate de
Ah, bon,
soude?
après, moi je l'utilise. Après, moi j'utilise beaucoup en hygiène maison. Je fais mon ménage avec. Je fais mes lessives comme ça. Ça fait une dizaine d'années que tu vois, j'achète plus du tout. Je rentre plus dans cette industrie de dingue là où tu achètes 15 produits ménagers. Enfin, je fais tout moi-même. Ça va, ma maison est propre. Et donc, oui, le bicarbonate, le vinaigre, bah, c'est des produits qui sont très bien. Voilà, j'ai pas d'avis particulier. Après, on l'utilise beaucoup en cosmétique. Alors, beaucoup l'utilisent par exemple, le déodorant. Faut faire attention sur la quantité que tu mets. Je prône pas le do it yourself parce qu'il y a beaucoup d'accidents derrière. Les gens ne savent pas gérer des doses. Ils vont toujours mélanger, par exemple, avec des huiles essentielles. C'est assez dangereux. Il faut connaître un minimum sur cette notion d'aromathérapie. J'ai des amis qui travaillent à l'hôpital et du coup, j'ai souvent les échos des personnes qui arrivent avec des brûlures à cause de recettes mal dosées en do-it-yourself. Tu sais, elles font leur déo chez elles, etc. Elles se retrouvent avec des plaques, des aisselles complètement brûlées parce qu'elles ont mis trop de tel et tel ingrédient, etc. Donc, voilà, je suis pas. Faut maîtriser quand même ça. Faut faire avec des gens qui savent, qui maîtrisent quand même le sujet, la question du dosage, etc. Quoi.
Ok. Bon, là, décidément, ouais, je suis pas bon là-dessus. Là, maintenant que t'en parles, non, pour les produits lessives et vaisselle, c'est dans plein de mini dosettes emballées dans du plastique et puis après. Un emballage plastique. J'ai fait refait 15 ans plus tard, mon bilan carbone là, cet été avec l'outil MyCO2, bon, dont on dit qu'il surestime un petit peu, mais peu importe. On n'est pas une demi-tonne près. Je suis tombé à 7 tonnes, 7 tonnes et demi, bon, ce qui est à la fois bien et pas à top. Et j'arrive à me lamenter sur les réseaux sociaux, ouin, après tous ces efforts, je suis encore très très loin de. Qu'est-ce qui se passe tout ça? Bon, en fait, depuis, j'ai parlé à Dorothée, à Tania et à toi, et j'ai dit, bah, par exemple, sur un énorme chantier comme les emballages, les poils adhésifs, les de ce qu'on cite là, les produits ménagers, bah, en fait, je suis pas bon du tout. Donc bon, c'est bien de venir se lamenter, mais bon, voilà, il y a des efforts que je ne fais pas. Bref, parenthèse de lamentation terminée.
Du coup, c'est intéressant parce que du coup, tu as fait ton bilan carbone. Moi, je sais que dans mon industrie, on voit de plus en plus de fraises qui arrivent dans les entreprises. Et ça, je suis ravie. Moi, ça fait depuis 2019 que je suis la fresque du climat et toutes les autres hein, qui en ont découlé. Et du coup, c'est intéressant. Du coup, quand tu fais un atelier d'automne pour savoir un petit peu quels sont toi en tant qu'individuel, c'est quoi ton poids carbone, sachant que je ne veux pas dire, tu l'as fait le d'automne?
Non, j'ai pas fait l'atelier d'automne. Non.
Il est top. Vraiment faut le faire parce qu'il te donne les solutions. Autant la fresque du climat, elle, voilà, tu peines un petit peu à avoir les solutions derrière, autant l'atelier d'automne derrière, c'est concret quoi. Et je crois, alors de mémoire, on est à 9 tonnes et quelques hein, pour un Français moyen.
Ouais, c'est ça.
9 tonnes et quelques en ville. Hein. Qui habite par exemple à Paris quoi.
Non, c'est un Français moyen donc,
Ah ouais, c'est pas ciblé sur la ville. Moi j'arrive à 3,7, mais parce que j'ai pas de voiture, j'habite à Paris quand même, enfin je suis à Issy-les-Moulineaux, mais tu vois je suis dans un bâtiment qui, voilà, qui consomme aussi, mais par contre j'achète en vrac le plus possible, tu vois, j'achète pas de produits ménagers, etc. Je suis en seconde main depuis 10 ans au moins. J'achète très peu. Honnêtement, j'achète très très peu.
T'es chauffé comment?
C'est le bâtiment, donc c'est chauffage collectif.
Ouais, mais moi aussi, mais comme il est au gaz, déjà ça me pénalise alors que j'y peux pas grand chose quoi.
Eh ben, je fais attention, tu vois, j'ai essayé. Alors, je viens des îles, j'ai l'habitude d'avoir chaud. Et jusqu'à très longtemps, j'ai vachement chauffé mes logements. Et moi j'ai besoin tu vois, d'être à l'aise chez moi et d'avoir chaud, et donc j'étais au moins à aller à 22-23 degrés chez moi hein, hiver hein. Et quand j'ai pris conscience de tout ça, maintenant je suis à 17, mais par contre j'ai des pulls, tu vois, je suis chez moi, je suis en col roulé, on est au mois d'octobre, on est fin octobre, je m'habille un petit peu plus chez moi, voilà.
Ouais, ok. Non, mais c'est tout un tas de leviers qu'on peut.
Ben oui, mais c'est ça. Si à un moment donné, ça coûte quoi de garder ton pull quand tu sors? Ben ok, tu le gardes chez moi. Avant, j'avais cette habitude de tu vois, quand je suis à la maison, je suis toujours voilà en t-shirt ou tu vois, mais voilà, les bras à l'air, mais je vais pas avoir une couche supplémentaire. Là, tant pis, je vis avec une couche supplémentaire. C'est pas grave, j'en suis pas morte et je vis très bien. Ouais, et puis derrière, je sais que tu vois, c'est moins impactant.
Ouais. Donc, bravo, c'est entre guillemets un bon score, mais c'est aussi une bonne, un beau geste. 3,7, c'est vraiment pas beaucoup.
Ouais, bravo. Mais ce qui m'a fait baisser, tu vois, c'est à la fin de l'atelier carbone, l'atelier d'automne, pardon, j'ai pris conscience de mon impact, que mon plus gros impact, si je voulais vraiment baisser considérablement, c'était le fait de consommer de la viande rouge. Et donc, à la fin du truc, je me suis dit, avec toute notre promo, là, enfin, pas la promo, mais le groupe dans lequel on a fait, on s'est donné un objectif et on s'est dit, on se rappelle dans un an et on voit si on tient. Il y en a un qui a vendu sa voiture. Il y en a une autre qui a déménagé, qui a quitté Paris pour aller ailleurs. Mais parce que c'était déjà latent, hein. C'était déjà latent. Et là, ça ne fait que amplifier cette urgence de changer, en fait. Et moi, j'ai arrêté de consommer de la viande rouge. Bébé animaux et viande. Et ça, tu vois, dans mon bilan carbone personnel, je suis passée de 5 tonnes et quelques à 3 tonnes, à 3,7.
Ah, je vois. Bon, après, s'il y avait... on n'en est pas là, mais s'il n'y avait plus du tout de ruminants, enfin, il n'y a plus de prairies et d'engrais animal, donc c'est un peu mon dilemme. Mais ceci dit, ça justifierait pas de manger des burgers tous les jours. On a un peu digressé, mais c'était important parce que, mais mine de rien, chacun peut s'identifier. Enfin, que c'est l'histoire dont on parle ici, les emballages, les produits à l'intérieur, le transport de tout ça, plutôt que, effectivement, de passer, par exemple, au bicarbonate de soude plutôt que 15 produits, bah, mine de rien, derrière, voilà, il y a une empreinte carbone, et pas que, parce que le climat n'est pas le seul problème. Chouette, alors, c'est vraiment intéressant aussi les cas d'entreprises vertueuses, et il n'y a pas de problème pour citer des marques, bon, les cosmétiques frais et d'autres que tu as cités. Ça permet d'avoir un panorama de ce qu'on peut faire. Juste par, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qu'on n'aurait pas citées qui permettraient de voir d'autres leviers d'action dans cette industrie?
D'autres, il y en a plein pour voir un petit peu comment tu vois. Il y a la marque Neo by Nature qui elle va prôner le réemploi. Neo by Nature, en fait, ils ont fabriqué un emballage qui est magnifique, qui est en inox et qui est une bouteille ovale que tu donc où tu mets ton gel douche, ton shampoing. Et eux, ils ont travaillé sur une formulation toujours anhydre. Donc, imagine, tu as un Doliprane, ok, c'est de la poudre compressée. Donc, tu as ta petite, ton, je sais pas, ton Doliprane, ton Effergan, si tu veux, qui arrive dans une petite boîte en carton. Et c'est ça ton gel douche, en fait. Ça va être ta petite dose que tu mets à infuser dans ta bouteille d'eau. Parce que l'eau, tu l'as chez toi. Donc, à quoi ça sert de trimballer de l'eau dans un flacon en plastique pour te laver avec, alors que l'eau tu l'as chez toi. Donc du coup c'est cette façon de faire, tu vois, qui prône un autre usage cosmétique. Et eux sont allés beaucoup plus loin parce qu'ils ont travaillé justement sur la durabilité de leur objet, qu'il soit beau et que tu as envie de garder très longtemps. Donc c'est pas du plastique, c'est pas du verre. Là on est sur vraiment un très bel objet. Où tu vois aussi à l'intérieur si ton gel douche, tu vois, il réduit ou pas, si tu dois racheter tes petites pastilles ou pas. Du coup, tu laisses infuser, je crois que tu as une infusion d'une nuit, tu vois. Donc, tu mets avant de te coucher, ça infuse, tu passes le lendemain matin, tu secoues ta bouteille et tu as ton gel douche ou bien ton shampoing. Et ça, tu as une consommation pour le mois. Donc, tu vois, c'est des petits trucs comme ça où c'est possible de faire. Donc, tu as ce système où voilà, on va éviter de consommer, jeter, etc. Toujours ça. Mais tu as aussi beaucoup d'exemples dans le retail, tu sais. T'as pas, ok, on parle de marques et d'exemples de gestuels, mais dans les retails, on prône aussi tu vois, le vrac, de venir carrément consigner en boutique, de venir aussi carrément avec ton flacon et tu dis, bah voilà, je vais recharger mon truc. C'est possible aussi, c'est en train d'arriver. Donc après, il y a toujours des complexités réglementaires, on va dire ça comme ça. Mais c'est possible. En avril 2022, non, là, pardon, cette année, il y a une pharmacie à Paris qui a essayé de mutualiser avec 4-5 marques, justement de mutualiser et d'avoir un pack standard, un seul pack, où tu vas venir c'est une machine. Un peu où tu vas prendre comme tu prendrais, je sais pas, ton riz en vrac, et bien là, tu vas choisir ton produit de chez Mustela, de chez Truc, etc. Toutes les marques, tu choisis ton produit dans une bouteille, tu vas l'utiliser chez toi, tu reviens avec ta bouteille, et puis en plus, tu as ce système de consigne avec une réduction, etc. Donc quand tu vas récupérer soit une recharge, soit tu viens récupérer, enfin remplir en vrac, bah, tu as une réduction sur le prix au final, etc. Donc, ça, c'est en train de se transformer petit à petit. On montre un petit peu de nouvelles gestuelles, de nouvelles forces de proposition, en tout cas aux consommateurs. Et en parfumerie, c'est pareil. Il y a là, je sais pas si tu te rappelles de ce parfum Thierry Mugler qui avait sorti un non, Thierry Mugler avait sorti, donc c'est un parfumeur qui avait sorti un très beau parfum, Angel. Et aujourd'hui, bah, tu vois, c'était un des pionniers à proposer la fontaine à parfum où tu avais ton très joli pack en forme d'étoile, etc. Et tu pouvais le remplir à la fontaine directement. Et bah, aujourd'hui, ça se déploie et tu as le Sephora des Champs-Élysées qui a proposé justement un très beau concept de tout un bar à parfum où tu vas reprendre, enfin, tu vois, pouvoir recharger, utiliser en vrac ton parfum. Voilà, donc Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il faut être observateur, il faut être curieux surtout. Il ne faut pas avoir peur de tester des innovations en beauté et des gestuels. Faut pas, tu vois, enfin, ça semble simple pour moi parce que du coup, je suis dedans et voilà. Mais c'est vrai que d'avoir un pas, de se dire, allez, si j'ai essayé, ça peut être pas mal déjà comme transformation.
Ouais, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. J'ai appris plein de choses et je me dis que j'ai un peu de pain sur la planche. Bon, même si je ne consomme pas de maquillage, mais voilà,
sur le, bah, tu consommes quand même, quoi qu'il en soit, du produit cosmétique.
Ah donc, oui, non, je me rends compte en parlant là. Voilà, ah oui. Oui, produits ménagers, tout ça, l'histoire des 15 produits là. Ouais, non, d'hygiène, de laver les sols, laver la vaisselle, laver la lessive. Bon, bref.
Bah, tu vois, tu parles de la vaisselle. Ça aussi, c'est un produit que tu peux trouver une alternative au liquide vaisselle. Donc, tu as des pains de vaisselle solides.
Ouais.
Tu as du savon en fait, tu as du savon où tu viens avec ta brosse. Moi j'ai une petite brosse en bois avec des poils là. Je viens passer ma brosse sur le pain, le savon de liquide vaisselle quoi. Enfin, c'est pas du liquide, du coup c'est du savon solide. Ça frotte et je récupère du produit lavant en fait et je lave ma vaisselle comme ça.
Comme ça, c'est la vaisselle à la main, mais après pour le lave-vaisselle,
c'est t'as de la poudre.
Ouais, c'est ça, la poudre. Ouais. Ouais, non, c'est ça, t'as raison.
Mais ouais. Mais tu vois, tout ça, cette transformation, en tout cas en termes de nous dans notre industrie de la beauté, bah, c'est un petit peu pour ça que j'ai fait ce livre, en fait, le livre de l'éco-conception en cosmétique, pour montrer que c'était possible, en fait, et qu'on pouvait aujourd'hui mettre de l'éco-conception dans la beauté, avant que les lois nous obligent à indiquer un affichage environnemental. On ne sait pas quand est-ce que ça va nous tomber dessus, mais ça va arriver. Donc on se prémunit, si tu veux, de cette loi qui fait peur hein, à beaucoup de jeunes marques. Mais du coup, ce livre, il est là pour l'industrie, pour montrer que bah voilà, on peut transformer. Alors je sais pas si là je le montre à l'écran, mais du coup en podcast, les gens le verront pas. Attends, je t'entends plus du tout, Cyrus.
Oui, pardon. Je mettrai le lien dans la description. C'est le guide de l'éco-conception en cosmétique. Ouais. Donc voilà, vous trouverez le lien dans la description.
Mais du coup, ce livre, il est à destination de tous les curieux, de tous les professionnels de l'industrie. Après, on est 9 co-auteurs. Je ne suis pas toute seule à avoir écrit ce livre-là. Et puis, on est... voilà, donc en fait, j'ai pris des experts sur chacun des domaines. Donc, je parle beaucoup de l'analyse du cycle de vie. Je parle aussi du sourcing de matières premières. On parle de quoi d'autre, évidemment du packaging. J'ai un expert aussi qui va parler des perturbateurs endocriniens. J'ai un expert réglementation. J'ai un. Enfin voilà, on est 9 en tout dans cet ouvrage. On montre à la fin les solutions et puis les exemples surtout, ceux qui sont déjà mis en place avec les marques qui ont déjà qui ont déjà montré un chemin. Et ça, c'est intéressant de voir que bah, déjà, il y en a déjà plein qui, depuis quelques années, ont ce chemin d'économie circulaire. Et c'est chouette. C'est chouette.
Merci beaucoup, Sandrine. Aux auditeurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas, évidemment, à liker, commenter, donner votre avis. Avis contradictoire ou pas, d'ailleurs. À partager, abonnez-vous à la chaîne, ça aide toujours, et si vous voulez aller jusque là, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee, je vous mets aussi le lien dans la description. C'est un petit complément de revenu, c'est pas ce qui nourrit les enfants, ça paye à peu près les frais de production. Voilà. Merci encore Sandrine, vraiment passionnant. Bonne suite à toi.
Bah, merci beaucoup Cyrus, c'était chouette, et puis ouais, je vous engage vraiment tous à écouter et à suivre Plan B, parce que toutes les interviews sont de qualité, et je suis fière d'avoir été, d'avoir passé cette heure-là avec toi, et c'était hyper intéressant. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir Cyrus.